mâle ancestral et odieux bégaiement de l'histoire, la fureur anti-juive semble constamment muter ou se réincarner d'époque en époque dans des contextes formidablement différents. Historiens, sociologues, théologiens, psychologues, beaucoup ont analysé les racines de ce fléau et tenté de comprendre les contextes politiques, économiques, sociaux ou religieux de son apparition ou de sa résurgence. Moins nombreux sont ceux qui ont exploré la littérature juive pour y lire comment celle-ci interprète le phénomène. Delphine Horwiller est ce soir notre invitée à l'occasion de la publication de son nouveau livre intitulé « Réflexions sur la question antisémite ». Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique. Et ce soir, ça sera Barbara.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, pas de quai et pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois, commence. À Göttingen, bien sûr, nous, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles, à Göttingen, nous, nous avons nos matins blêmes et l'ombre grise de Verlaine. C'est la mélancolie même à Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire, mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent, mais les enfants ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Oh, que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. La, 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 la. Joli tout de même à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen.
Habitez-vous dans un seul monde, Delphine Horwiller, ou avez-vous l'impression d'habiter dans plusieurs mondes parallèles ?
Je crois que personne n'habite dans un seul monde, mais qu'on est dans un temps où beaucoup de gens aiment se raconter qu'ils habitent dans un monde, qu'ils viennent de quelque part, qu'ils appartiennent à une identité. Moi, je trouve que les moments les plus intéressants dans l'existence, c'est le moment où on sait que des mondes dialoguent en nous. C'est même la définition même dans la pensée hébraïque de l'intelligence. En fait, c'est troublant. Le mot intelligence en hébreu, ça se dit bina, ça veut dire entre deux territoires. En fait, je trouve qu'on acquiert de la sagesse, souvent une intelligence particulière des choses ou du monde quand on reconnaît que on habite entre des univers, entre des langues. Moi, j'ai eu l'impression que très jeune, il y avait plein de langues qui parlaient en moi et qui m'obligeaient à faire tout le temps de la traduction entre des histoires de ma vie, entre des origines de ma famille, entre des appartenances, plein de choses.
Mais ces langues étaient des langues de la Torah ou des langues que vous entendiez autour de vous ?
C'était d'abord des langues étrangères. Parfois, moi, une partie de ma famille parlait yiddish, parlait pas français. Il y avait donc la présence d'autres langues dans ma famille qui faisaient partie d'un narratif familial. Mais je dirais bien au-delà de ça, j'ai eu l'impression naviguer entre des langages, même dans l'éducation que j'ai reçue, un attachement très fort à la République, des études scientifiques, une recherche sur le sens de mon identité juive, l'importance de l'exégèse dans ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, je trouve étrange quand on demande aux gens, et ça arrive si souvent, de choisir un monde de référence. J'y pense, voilà, souvent les gens aujourd'hui disent, est-ce qu'on peut par exemple être religieux, quoi que ce mot veuille dire, et croire à la science? Pour moi, c'est une question qui est absurde ou idiote. Demander ça à quelqu'un, c'est comme lui demander s'il préfère les mathématiques ou la poésie. Ça n'a aucun sens. Il faut vivre dans un monde où il y a des mathématiques et de la poésie, et parfois il y a de la poésie dans les mathématiques, et parfois... On le sait, la poésie est extrêmement mathématique. Voilà, donc c'est cette capacité à naviguer entre des mondes. Je pense que pour moi, c'est le sens d'une éducation, c'est le sens de ce qu'on doit acquérir dans la vie, une capacité à naviguer entre des mondes.
Que vous a apporté votre grand-père, Delphine Horvilleur?
Alors, mon grand-père paternel a été une figure marquante dans ma vie parce qu'il avait une formation de rabbin. Je crois que il aurait été à des années-lumière d'imaginer que je deviendrais rabbin à mon tour, parce que dans son univers à lui, il n'y avait pas de femme rabbin. Il n'y en avait pas non plus dans mon enfance. C'était pas un modèle qui existait. Mais il a eu une place de guide, de figure tutélaire. Mon grand-père, qui était rabbin, avait finalement fait le choix de devenir enseignant et proviseur dans un lycée de la République. Ma famille paternelle a une histoire qu'on qualifie parfois d'israélite. C'est comme ça que se définissaient pendant longtemps les juifs français, très attachés à la laïcité, à la République. J'ai le souvenir de 1000 conversations avec mon grand-père enfant où je sentais son amour, sa dévotion presque pour la France et son histoire et la République. J'ai le souvenir d'être allé avec mon grand-père à des marches militaires, par exemple des 14 juillet, où main dans la main, on écoutait des chants patriotiques, comme ça de, voilà. Donc il a eu une place très particulière, une influence, pense, forte sur mon chemin. Et puis je pense que, de façon générale, il y a tellement de choses qui se jouent entre les grands-parents et les petits-enfants. C'est peut-être cliché de le dire. Moi, je m'en rends compte aujourd'hui, si souvent dans mon métier de rabbin, que quand j'aborde des questions de transmission avec les gens, je m'en rends compte qu'il y a quelque chose souvent qui s'est joué en sautant une génération dans la vie des gens. Que l'histoire d'un grand-père ou d'une grand-mère a été clé. Et que souvent la génération au milieu n'a pas perçu ce qui était en jeu. Il y a une phrase qui dit que les parents servent simplement à donner des petits-enfants aux grands-parents. Et je trouve qu'il y a une certaine justesse là-dedans. Je le vis maintenant aussi en tant que mère. Je vois le lien que peuvent avoir, voilà, la force particulière de la transmission qu'exercent des grands-parents sur des petits-enfants.
Dans l'avant-dernier livre que vous avez publié, passionnant, avec Rachid Benzine, intitulé « Des mille une façons d'être juif ou musulman », à un moment vous dites que les religions peuvent apporter beaucoup de réflexion à la laïcité dans notre République. Comment et pourquoi, Delphine Horvilleur?
Il me semble que les religions, ce qui est compliqué, c'est qu'elles peuvent être à la fois des bénédictions et des malédictions pour le débat public. On voit très très bien comment elles peuvent être des malédictions quand tout à coup elles imposent des vérités ou de l'indubitable dans le débat. On n'a vraiment pas besoin d'indubitable dans le débat aujourd'hui. On a besoin de doute, au contraire, d'une capacité à douter, à naviguer entre des mondes, ce qu'on disait à l'instant. Et c'est ce que le discours religieux traditionnel souvent ne parvient pas à faire quand il se part de dogmatisme, voilà. Mais il pourrait en être autrement. Moi, j'ai l'impression que on a dans nos traditions religieuses des sagesses ancestrales et surtout des pensées qui ont traversé le temps et qui, en traversant le temps et les époques et les civilisations, ont métabolisé l'histoire avec un grand H. Et ça, je trouve que ça pourrait être extrêmement bénéfique de nous rappeler à quel point nos histoires personnelles ou nos histoires collectives, elles sont le fruit de tout ce qu'on a métabolisé d'une rencontre avec l'autre. Moi, j'y pense souvent dans ma tradition, qui est la tradition juive. En fait, quand on regarde toutes les fêtes d'un calendrier juif, mais c'est pareil pour toutes les autres traditions religieuses et monothéistes particulièrement, en fait, chacune des fêtes du calendrier est marquée par la rencontre avec une autre civilisation, avec une altérité. La fête de Pâques, de la Pâque juive, est très fortement marquée par une rencontre avec le monde romain. La fête de Pourim, qui est un carnaval au printemps, est très fortement marquée par une rencontre avec le monde perse antique. Et c'est intéressant parce qu'on a parfois l'illusion, parce que c'est comme ça que, par les voies les plus, on va dire, conservatrices, nos religions parlent, qu'elles sont affaires de pureté, de se préserver d'une influence étrangère, de revenir à des sources non contaminées par l'autre. Et en fait, c'est exactement l'inverse. Quand on s'intéresse aux fêtes, aux rites et même au langage des religions, on se rend compte que si elles ont survécu, si elles sont vivantes, c'est parce qu'elles ont su être fertilisées et donc contaminées d'une certaine manière par de l'altérité, par une rencontre avec des mondes qui n'étaient pas les leurs, et qu'elles ont, voilà, exactement comme un aliment métabolisé, qu'elles se sont nourries de ça pour créer quelque chose d'inédit, mais qui doit tout à la rencontre avec l'autre.
Vous êtes devenue croyante, Delphine Orvillers, et donc parce que croyante rabbine, ou est-ce que vous avez toujours été croyante parce qu'élevée dans la croyance religieuse?
Alors ça, c'est une question piège. C'est parce que, en réalité, c'est une question piège, je dirais, pour le monde dans lequel j'évolue, le monde juif, dans le sens où je crois pas que la croyance soit au cœur de l'identité juive. Et quand on me parle de croyance, en fait, j'ai toujours un petit moment de doute. Je sais jamais ce que l'autre veut dire quand il me dit que je suis croyante. Quand il m'arrive bien souvent dans des dialogues interreligieux, les gens me disent « vous, en tant que femme de foi », et j'ai toujours l'impression d'un malentendu parce que je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Je sais très bien dans quel sens mon interlocuteur l'utilise dans son monde à lui. Très clairement, par exemple, dans un monde de culture chrétienne, on voit la centralité de la croyance et de la foi. C'est pas du tout le cas dans le judaïsme. En fait, le judaïsme ne sait même pas parler de croyance. Pour à commencer, c'est même pas parler même de Dieu. Alors, je sais que ça peut paraître étrange, mais le mot Dieu en hébreu, c'est un mot qui se prononce pas. C'est un mot qu'on ne sait pas prononcer, le nom de Dieu. Mais s'il est quelque chose, grammaticalement, c'est pas un nom, c'est un verbe. Donc, l'hébreu ne sait parler du divin qu'en termes de verbe, c'est-à-dire d'action dans le monde. Pas du tout à travers un nom, pas en le substantivant d'une quelconque manière. Donc, il y a toujours pour moi un malentendu. Je crois en quelque chose, mais je suis bien en peine de définir en quoi je crois. Je crois en du transcendant dans nos vies, à ce qu'on pourrait appeler du sacré, un sens que l'on donne, une action qui nous relie à du plus grand que nous. Alors voilà, ça c'est ma croyance.
Que veut dire être non-juive pour une juive?
Je ne saurais pas définir la même chose. Vous avez trouvé que je tourne autour de la question, mais c'est un vieux truc de rabbin en général. Mais c'est que, en réalité, pour pouvoir définir ce qu'est une non-juive, je devrais pouvoir vous définir ce qu'est une juive. Et là, à nouveau, on est dans une question problématique. Alors, mon livre tourne aussi beaucoup autour de cette question, comme d'ailleurs le précédent en parlait, comment les rabbins font les enfants. La problématique de l'identité juive, c'est qu'elle est du domaine de l'indéfinissable, de l'impossible définition. Donc oui, certains vous diront, vous répondront très simplement, vous disant une personne juive, c'est quelqu'un qui a une mère juive. D'autres vous diront non, c'est quelqu'un qui a un parent juif, ou alors un enfant, ou peut-être même un petit enfant juif. Et d'autres vous diront non, un juif, c'est quelqu'un qui vit d'une certaine manière, ou mange d'une certaine manière, ou pratique, ou a un lien historique à ce peuple juif. Mais en réalité, on le voit bien, aucune de ces définitions ne dit le tout de ce que c'est qu'être juif. Il y a des gens qui vous diront qu'ils sont juifs parce que ils sont sensibles à un certain humour ou qui jouent avec les mots d'une certaine manière. On n'a jamais fini de dire ce que c'est. Donc, cette incapacité à finir de définir le judaïsme fait qu'il est tout aussi difficile de définir ce qui ne l'est pas.
Je vous propose d'écouter Emmanuel Lévinas, dont vous parlez beaucoup dans vos livres, qui est un de vos maîtres spirituels et philosophiques. Emmanuel Lévinas va s'exprimer. Justement, il va essayer de définir ce que ça voulait dire pour lui être juif. C'est une archivina du 14 novembre 1976.
C'est une question que je ne me suis jamais posée. Comme je ne me suis jamais posé la question pourquoi je suis un homme. Voilà ce qui décrit le juif d'une manière banale, hein, et qui n'entre pas peut-être dans le fond de ce que cela est, n'est-ce pas ? Alors quand on réfléchit sur ce que cela est, il faut parler de choses, il faut parler des valeurs. C'est absolument insupportable le mot valeur, l'être incompromis, vous savez, n'est-ce pas? Il faut parler de certaines valeurs, il faut parler de gens qui ont une conception très rigoureuse du divin et qui sentent le divin dans tout ce qui est très haut, dans tout ce qui est sans compromis, dans tout ce qui est unique, hein, même quand ils sont athées, hein, même quand ils se souviennent du judaïsme d'autrefois. D'ailleurs, les juifs d'aujourd'hui sont comme tous les autres hommes, n'est-ce pas, mais ils se souviennent de ce qu'ils ont été ou de ce qu'ils ont oublié. Ils se souviennent de ce qu'ils ont oublié.
Voilà les propos d'Emmanuel Lévinas, c'était en 1976. Aujourd'hui, que veut dire être juif en 2019, Delphine Orviller? Est-ce que vous utiliseriez les mêmes mots qu'Emmanuel Lévinas?
Oui, je crois que je me reconnais assez dans une partie de sa définition. J'ajouterais peut-être un certain rapport aux mots. Et je voudrais rendre hommage à la mémoire de Amos Oz, disparu récemment, qui en parlait magnifiquement, qui considérait que quelque chose dans le judaïsme relève d'un attachement particulier au texte. En fait, on est texté, disait-il, à la même bibliothèque, même si on ne va pas lire ses livres de la même manière. C'est un rapport particulier au texte et à l'interprétation. Et il ajoutait, et c'est quelque chose aussi, Amos Oz, dans sa pensée à laquelle je suis très attachée, l'importance de l'humour juif comme étant constitutif, quand même, qui dit quelque chose d'un rapport au texte et d'un rapport à Dieu. Je compte pas le nombre de blagues juives où il est question d'un véritable culot insoutenable, incroyable, des hommes à l'égard de Dieu et du divin. Me vient à l'esprit une petite blague. On a le droit de raconter des blagues.
Oui, au contraire. D'ailleurs, il y en a beaucoup dans votre dernier livre. Hein. Il y en a au moins 5 ou 6
oui,
blagues.
C'est une source de sagesse particulière. C'est l'histoire d'une femme qui promène son petit garçon le long de la plage. On va dire Sarah qui promène un petit Jacob par la main. Et tout à coup, une vague arrive et emporte Jacob dans les profondeurs de l'océan. Alors, sa mère, Sarah, pleure et finalement supplie Dieu de lui rendre cet enfant. Une deuxième vague arrive et miraculeusement, replace le petit Jacob dans les bras de sa mère Sarah, qui l'embrasse et qui se tourne alors vers Dieu en disant « Eh oh, il n'avait pas un chapeau ?» Et cette histoire raconte bien. C'est Amos Oz que j'ai entendu raconter cette histoire. Il la raconte dans un de ses livres, je crois, « Juif par les mots ». Elle raconte bien le culot incroyable qu'ont les Juifs à l'égard de Dieu, qui fait partie d'une certaine religiosité. Voilà un toupet vis-à-vis du divin lui-même et vis-à-vis aussi des textes, de l'interprétation. L'interprétation rabbinique, elle est incroyablement osée. Parfois, elle prend le contre-pied du texte. Elle fait dire au texte exactement l'inverse de ce qui est écrit littéralement. Et l'interprétation humaine l'emporte toujours sur le sens littéral.
Vous évoquez le souvenir d'Amos Oz qui a récemment disparu. Amos Oz qui était auteur de nombreux textes, de poésie comme de narrations romanesques, comme de récits autobiographiques. Je rappelle que Histoire d'amour et de ténèbres raconte toute la saga familiale d'Amos Oz. Et il nous explique comment et pourquoi ils sont arrivés en terre de Palestine parce que ses parents étaient en proie à un antisémitisme dans les pays de l'Est qui faisait que c'était soit mourir, soit parvenir jusqu'en Palestine. Je vous propose d'écouter la voix de Amos Oz. Il va parler de Jérusalem, qu'il a quitté d'ailleurs parce qu'il vivait au milieu du désert et il aimait beaucoup la pureté de ce bleu du ciel et discuter avec les gens dans ce paysage aride. Et il va aussi dire ce que ça voulait dire pour lui d'être juif. Nous écoutons la voix d'Amos Oz, archive INA, 23 septembre 2016.
Jérusalem, c'est mon lieu. En même temps, c'est un endroit très étranger pour moi. Elle m'attire et je m'enfuis. Ça arrive également entre des couples, pas uniquement entre un homme et sa ville. Si vous me posez la question, est-ce que mes parents ont choisi pour moi
La réponse
est non, moi je choisis tous les jours de nouveau.
Tous les matins,
je choisis que je veux être juif.
Tous les matins,
je choisis que je veux vivre en Israël. Il y a une seule chose que je ne peux pas choisir et dont je ne peux pas décider. Ma langue, c'est l'hébreu. Je rêve en hébreu. Je fais l'amour en hébreu.
Et
j'aime beaucoup parler et lire l'hébreu. Le lien entre moi-même et l'État, il y a des hauts et des bas. Le lien que j'ai avec Jérusalem, là, il y a de l'amour et de la haine. Mon lien avec la langue hébraïque, c'est un petit peu comme le violoniste avec son violon.
Nous venons d'entendre la voix d'Amos Oz. Amos Oz, dont les réflexions croisent beaucoup les vôtres, et notamment à l'intérieur de votre dernier ouvrage, Delphine Orvillère, intitulé « Réflexions sur la question antisémite ». Vous avez un chapitre qui s'intitule « L'exception », que vous écrivez « E-X-C-E-P-S-I-O-N, juive ». Et vous rappelez ceci, je vous cite, « En 2003, un sondage publié par la Commission européenne place Israël en tête d'une étrange compétition. Un large échantillon de personnes sont invitées à se prononcer à partir d'une liste de pays présélectionnés pour dire quelle nation représente à leurs yeux la menace la plus sérieuse pour la paix dans le monde. » Israël arrive à la première place devant l'Iran, l'Irak ou la Corée du Nord. Un tout petit pays est ainsi défini comme l'empêcheur numéro un de vivre en harmonie, le plus grand perturbateur de sérénité au monde. Et là, nous venons d'entendre Amos Oz qui nous dit qu'il choisissait d'être juif tous les jours et qui avait choisi non pas de vivre en Israël puisque ses parents sont arrivés en Palestine et lui, il est né palestinien, mais il a continué à vivre dans ce territoire qui s'appelle Israël. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette haine d'Israël perdure toujours, et vous qui n'y allez pas de main morte dans les problématiques d'aujourd'hui, vous parlez aussi de ce flou qui peut exister entre l'antisionisme et l'antisémitisme à l'intérieur d'un certain discours qui revient aujourd'hui.
Oui, je crois que c'est indéniable. Le sondage que je cite dans le livre en est une belle expression. C'est-à-dire qu'on a l'impression que parfois la dénonciation, la critique d'Israël atteint des proportions qui sont d'une forme quasi délirante ou obsessionnelle. Et je crois que Amos Oz, qui savait être extrêmement critique, comme on l'a entendu il y a un instant vis-à-vis...
Et qui était un des cofondateurs du mouvement israélien de la paix maintenant.
Voilà, ça fait très très bien le dénoncer. C'est-à-dire qu'il s'efforçait de déterminer à quel moment la critique légitime se transformait en un délire agressif qui revêtait des habits finalement extrêmement semblables à ceux d'un antisémitisme ancestral. La question de l'empêcheur de faire la paix, cette question qui a été posée à un public européen, Israël comme le grand empêcheur de faire la paix, finalement c'est une rhétorique antisémite ancestrale. Je suis pas sûre que les gens qui ont répondu à ce sondage en étaient conscients, mais cette idée que le juif est celui qui empêche de faire la paix, c'est-à-dire la complétude, l'intégrité d'une certaine manière, est tout à fait troublante. Je vais vous donner un exemple. J'étais à une conférence récemment, je donnais une conférence et un monsieur a levé la main et m'a dit « Que dites-vous du fait que Israël, l'État d'Israël, a la forme d'un poignard planté dans le Proche-Orient ?» Voilà. Donc, et ce monsieur, je crois, n'avait pas le sentiment dans sa question de dire quelque chose de particulièrement antisémite, mais c'était tout à fait révélateur d'une sorte de délire de complétude, c'est-à-dire cette façon d'interpréter la présence juive au Proche-Orient comme étant ceux qui vient rompre de façon fantasmatique une paix complète et sereine du monde arabe ou du Proche-Orient. Donc voilà, on peut encore, et c'est important de le dire, énoncer une critique, et une critique tout à fait légitime vis-à-vis de la politique d'un gouvernement, vis-à-vis aussi des dangers et des dérives du nationalisme israélien, de l'hypernationalisme, comme de tout nationalisme aujourd'hui dans le monde, dans ses dérives. Mais il y a un moment donné où il y a une bascule. Voilà. Et je crois que Amos Oz était un ambassadeur extrêmement puissant de cette conscience-là, parce que toute son histoire racontait la force de ces combats, voilà, des paradoxes de son histoire. Pour moi, et je suis très heureuse que vous nous ayez fait écouter Amos Oz, c'est très émouvant pour moi d'entendre sa voix si particulière. Il incarnait l'hébreu par excellence. Alors l'hébreu, il en parle de son lien à cette langue, mais l'hébreu, littéralement, dans la tradition juive, c'est étymologiquement celui qui devient. En fait, l'hébreu, ça veut dire, en hébreu, le passeur, celui qui était à un endroit et qui se met en route vers un ailleurs. Le tout premier des Hébreux dans la tradition, c'est le père des trois monothéismes, c'est Abraham. C'est le tout premier qui s'appelle Abraham, l'hébreu. C'est intéressant parce qu'il vient de la Chaldée, Abraham, et l'événement fondateur de sa vie dans la Bible. C'est qu'il quitte la maison de son père et le lieu de sa naissance et se met en route vers une terre promise. Le fait de s'arracher à sa terre d'origine lui fait gagner un nom, le nom de l'hébreu, de celui qui passe, qui traverse et qui se met en route. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant et en réalité subtil de creuser cette définition identitaire comme étant pas née de votre naissance, comme ne venant pas de votre origine, mais comme étant définie par un mouvement hors de votre origine. Finalement, quand Amos Oz raconte qu'il choisit chaque jour d'être qui il est, eh ben il raconte la même histoire qu'Abraham. Il dit voilà, voilà où je suis né, mais en fait je vais me définir beaucoup plus par le chemin que je fais à partir de ma naissance que par cette naissance.
Amos Oz nous disait qu'il choisissait chaque jour d'être juif. Est-ce qu'on peut choisir chaque jour d'être juif et de ne pas être pour autant solidaire de la politique et du gouvernement d'Israël, Delphine Horviller?
Je crois que oui, en tout cas j'espère que c'est possible, qu'on peut tout à fait, bien entendu, être juif et faire passer son judaïsme par bien d'autres choses que par un ancrage nationaliste. Simplement, ça devient parfois difficile ou beaucoup plus complexe, justement quand Israël est la cible, si souvent, d'attaques qui sont, comme on vient de le dire, démesurées et parfois délirantes. C'est-à-dire que c'est comme un cercle vicieux.
Ça fait partie de la rhétorique antisémite.
Voilà, quand tout à coup ce discours critique devient chargé, on va dire, des bons vieux marqueurs d'antisémitisme, de l'idée qu'une rhétorique, par exemple, impérialiste et colonialiste très forte, qui fait toujours se poser la question de pourquoi encore les Juifs sont, dans ce discours, forcément décrits comme étant du côté du contrôle, du pouvoir et des puissants et des élites. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui, finalement, doit faire dresser l'oreille, malheureusement, de beaucoup de gens et de beaucoup de Juifs, parce qu'on connaît cette rhétorique et donc ça oblige à une vigilance. Mais ce qui est très difficile, c'est de faire dialoguer cette vigilance nécessaire avec un sens critique, tout simplement, et puis une liberté d'exprimer un judaïsme qui ne passe pas nécessairement par un engagement sioniste. Voyez, moi, je me suis souvent définie comme sioniste, j'ai vécu longtemps en Israël, et pour autant, je ne considère pas que le sionisme soit l'aboutissement de l'identité juive. Et c'est en cela où je ne me retrouve pas nécessairement d'accord avec certains discours sionistes ou hyper-sionistes, voilà, qui considèrent que c'est une sorte de résolution de la problématique, que, en fait, que le sionisme serait l'aboutissement de l'identité juive. C'est pas ma vision des choses, ça ne change pas mon attachement affectif à cette terre et à ce pays, mais ça ne m'empêche pas d'être critique de sa politique et de sa politique actuelle.
J'ai l'impression que pour vous, Delphine Horviller, le judaïsme, c'est une constante recherche, à la fois dans les textes, dans le comparatisme des religions, dans le questionnement philosophique, c'est justement questionner, principe d'incertitude et ne pas forcément toujours avoir raison. Dans ce dernier ouvrage, vous écrivez ceci, « Le vrai judaïsme n'est pas plus en Israël qu'en diaspora, tout simplement parce qu'il n'est vrai que là où il ne s'imagine pas avoir tout dit de lui-même. »
Je crois que c'est ce qui menace le judaïsme, en réalité, c'est ce qui menace toute identité. Et malheureusement, on vit dans ce temps de repli identitaire et d'obsession identitaire tout autour de nous. C'est ce qu'on retrouve chez les extrêmes politiques, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les formules du populisme, c'est ce qu'on retrouve aussi chez tous les fondamentalistes qui ont le vent en poupe, toutes religions confondues aujourd'hui.
C'est ce qu'on retrouve aussi dans la montée des communautarismes.
Cette idée que je serai capable de dire ce que c'est d'être authentiquement moi. Alors, à l'extrême droite, être authentiquement soi, ça veut dire se débarrasser de l'étrangeté ou de l'étranger ou de tout ce qui de l'extérieur à la nation nous contaminerait. Dans un certain discours d'extrême gauche, notamment le discours post-colonialiste, alors on va retrouver cette idée que l'Occident nous aurait contaminés ou que la blanchité ou la blanchitude, je ne sais même plus exactement comment dire, utiliser ces termes, serait une forme de contamination et qu'il faudrait revenir à de l'authentiquement soi. Tous les communautarismes racontent la même chose également, les populismes aussi. Et je trouve qu'on est malade de cette quête d'authenticité. Voilà. Comme s'il existait une façon d'être pleinement, intégralement et authentiquement soi. Alors, moi, j'ai la conviction que tout ça a beaucoup à voir avec la tentation antisémite. C'est pour ça que voilà, c'est au cœur de ce livre. Je crois que l'antisémitisme, c'est toujours un intégrisme de l'intégrité. C'est-à-dire que la pente antisémite est là, glissante fortement, quand quelqu'un, ou alors un individu, ou bien une famille, ou un clan, ou un groupe, est soudain persuadé qu'il va pouvoir se définir en pureté de l'autre, en exclusion de l'autre, et qu'il va pouvoir se trouver une frontière, parfois même une frontière de définition totalement hermétique, un refus de la porosité du monde qui nous constitue. Alors, en général, l'antisémitisme n'est pas loin, c'est-à-dire que c'est un marqueur assez clair d'une entrée dans une, voilà, finalement presque une allergie à la porosité et une allergie à l'altérité.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Delphine Horviller, Eufine Pritchkrook. Merci de nous avoir permis d'écouter cette chanson yiddish traditionnelle Delphine Horviller. Que raconte cette romance, cette comptine?
En fait, c'est une berceuse ancestrale qui raconte que dans une petite pièce éclairée par un poêle, dans un petit village froid, glacial, il y a un vieux maître, un rabbin, qui dans une classe enseigne à ses enfants l'alphabet. Et il leur dit, souvenez-vous, les enfants, quelles que soient les épreuves de l'existence que vous traverserez, la force de ces lettres. Souvenez-vous que ces mots, que ce langage, sera capable de vous porter, même à travers les pires tragédies. Et c'est comme une clé qui se transmet sous un air de berceuse, une clé très particulière de résilience à, par rapport à tout ce qui pourrait nous frapper, mais la résilience suprême, c'est celle des lettres. Et des mots et du langage dont chacun va s'emparer, et surtout la nouvelle génération.
Alors, dans ces nouvel ouvrage, passionnant pour bien des raisons, à la fois parce que vous nous entraînez dans des chemins de connaissances, d'expérimentation, de multiples vérités, vous nous questionnez plus que vous ne répondez, vous nous tracez des pistes à la fois historiques, politiques, métaphysiques. Il y a aussi des questions de société qui se posent aujourd'hui dans les épreuves que nous traversons tous, et notamment cette interrogation qui revient de manière lancinante dans votre réflexion politique au sens d'une citoyenneté active, Delphine Horviller, c'est que vous vous inquiétez de cette montée en puissance de la culture de la victime, culture de la victime qui devient un discours effectivement complètement obsédant aujourd'hui, et vous y opposez une hypothèse que vous proposez qui serait plutôt une culture de la dignité.
Oui, je me reviennent en mémoire bien des discussions ces dernières années avec Marceline Loridan-Ivens. Elle prononçait cette phrase qui m'a marquée. Je ne sais pas si cette phrase était d'elle ou si elle l'avait empruntée à quelqu'un qui disait les antisémites ne nous pardonneront jamais le mal qu'ils nous ont fait. Je trouve qu'on a assisté ces dernières années, c'est assez flagrant, à une sorte de une compétition victimaire, bien évidemment, et une sorte de reproche tout à fait surprenant, incohérent, abject, vis-à-vis des Juifs à qui on a reproché d'avoir finalement un peu trop souffert. Et finalement, pratiquement comme si dans cette compétition victimaire, le judaïsme avait pris un petit peu trop de place à l'échelle de l'histoire. Et donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, bien souvent, on entend ce discours, cette compétition victimaire, qui a parfois des relents, voilà, antisémites, et qui contribue à une, on va dire, quelque chose de très présent dans notre culture, je crois, cette idée que avoir souffert vous donnerait des droits particuliers ou un prestige ou un statut. Et je crois que c'est pas du tout le cas. Ce à quoi nous donne droit le fait d'avoir souffert, c'est simplement à une certaine expérience de l'art de se relever. C'est-à-dire que celui qui a traversé une épreuve et qui a réussi à se réinscrire dans la vie, à survivre, eh ben, la seule chose dont il dispose, c'est d'une certaine expertise dans l'art de la verticalisation. Voilà. Mais ça donne pas des droits à qui que ce soit. Ça donne parfois une sagesse, une expérience particulière, et encore pas toujours. Mais je pense que c'est important de repenser ça, parce que on n'ira nulle part avec une culture de victime. En fait, il faut plutôt cultiver un certain apprentissage, voilà, du retour à la station debout. J'en parle souvent avec dans mes dialogues interreligieux. Je fais beaucoup de dialogues interreligieux avec des chrétiens, des musulmans, et je suis souvent amenée à remarquer que, typiquement, dans nos différentes traditions religieuses, on prie pas de la même manière. C'est-à-dire que les juifs prient debout et les chrétiens s'agenouillent et les musulmans se prosternent. Donc, nos modalités de prière n'ont rien à voir. Mais ce qu'elles ont en commun, c'est qu'au bout de ces mouvements, on se relève. C'est-à-dire qu'on est tous debout à la fin. Et donc, je pense qu'il y a une responsabilité des éducateurs, des pédagogues, mais aussi une responsabilité forte des leaders religieux dans cet enseignement d'une sortie de la posture victimaire. Comment est-ce qu'on enseigne à se relever, tout simplement?
Vous allez même plus loin, Delphine Orvilla, dans les propositions que vous faites à nous tous, à chacun d'entre nous en tant que citoyens de la République. Vous dites que les religions, et particulièrement, enfin, vous parlez pour vous, hein, notamment dans ce dialogue que vous avez eu récemment avec Rachid Benzine, vous dites que on pourrait demander aux religions d'en appeler à une théologie de la responsabilité.
Oui, parce que cette théologie, en réalité, elle est présente, elle est là tout au début du texte, ou elle est même omniprésente dans le texte. Moi, j'ai mis l'exemple tiré de l'Ancien Testament, tel que les chrétiens l'appellent, de la Torah, de ces moments où des personnages de la Bible sont appelés à s'engager dans la responsabilité. Me vient à l'esprit, tout au début, un récit fondateur, voilà, que tout le monde connaît, tout au début de la Genèse, Cain et Abel, les premiers frères de l'histoire. C'est une histoire qu'on connaît tous, et à la fois qu'on doit tous relire aujourd'hui, parce que tout est là, dans la culture de la victime, tout est dans ce récit. Le début de l'histoire de Cain et Abel est très simple. Dieu demande à Cain et Abel de faire un sacrifice, et le sacrifice de Abel est accepté par Dieu et pas celui de Cain. Alors Cain est dans une situation de souffrance et perçoit une injustice. Pourquoi Dieu semble favoriser mon frère et pas moi? Voilà. Et à ce moment-là, Dieu intervient dans l'histoire et dit à Cain, que se passe-t-il? Ton visage s'est affaissé. Pourquoi ton visage s'est affaissé? Si tu vas vers le bien, tu pourras te relever. Et c'est intéressant parce que Dieu intervient dans l'histoire comme pourrait intervenir un parent, ou un psychanalyste, ou une conscience, voilà, qui intervient vis-à-vis de ce personnage pour lui dire, voilà, tu as deux possibilités. Soit cette histoire d'injustice, est la fin de ton histoire. Tu ne t'en relèves pas. Elle te définit pour l'éternité. Soit tu l'entends, tu l'écoutes, mais tu arrives à relever le visage et à te relever pour aller vers le bien. On connaît la suite de l'histoire. Caïn n'est pas capable d'opérer ce réajustement. Et à la scène suivante, il se lève et assassine son frère. C'est le premier meurtre de l'histoire, selon la Bible. Ce meurtre n'est pas n'importe quel meurtre, c'est le meurtre du frère, le fratricide. L'impossibilité de vivre avec un autre que je perçois comme n'ayant pas reçu la même bénédiction que moi. Et là, je reviens à mon sujet du moment, qui est la question de l'antisémitisme, parce que je crois qu'elle n'est pas complètement étrangère à cette problématique d'envie, de jalousie, de difficulté à accepter que peut-être mon frère n'ait pas eu la même bénédiction que moi. Vous savez, c'est lié à toute cette problématique de l'élection. Il y a tant d'encre qui a coulé sur cette problématique de l'élection. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire qu'un peuple élu ? C'est intéressant parce que les Juifs, ils utilisent finalement pas tellement ce concept ou ils s'y reconnaissent pas dans le sens où d'autres l'entendent. On entend si souvent des gens reprocher aux Juifs ce privilège qu'offrirait une élection. Et c'est comme si, et Freud le disait magnifiquement, Freud disait, c'est comme si les antisémites croyaient beaucoup plus que nous, les Juifs, à cette histoire d'élection. Voilà, un petit peu comme une envie originelle, une espèce de jalousie qui renvoie un petit peu à l'histoire de Caïn et Abel.
Nous allons écouter la voix d'Elie Wiesel, c'était le 3 décembre 1982, à propos de la résurgence de l'antisémitisme. Je répète, 3 décembre 1982.
On l'a dit, tout le monde l'a dit, Samprin et vous et moi et Simone Veil, on l'a dit, que c'est un mouvement conscient de la part de certains gens de déstabiliser l'histoire juive, en fait, de la renverser. C'est terrible qu'aujourd'hui, en 1982, Quand même, mais en 1945, paradoxalement, nous étions plus optimistes. On venait de sortir d'un monde en ruine. On a vu l'homme, on a vu Dieu, réduit, amoindri. Et pourtant, nous disions, eh bien, il y a quand même une chose, une certitude, que jamais plus. Ça veut dire plus
ça
de guerre.
On ne recommencera jamais.
Ah, jamais. On aura appris la leçon. Plus de guerre,
oui.
N'est-ce pas ? Plus de haine.
Et pourtant.
Si quelqu'un m'avait dit que moi, de mon vivant, je devrais combattre l'antisémitisme, jamais je n'aurais cru. Si on m'avait dit que la haine continuerait, jamais je n'aurais cru. Si on m'avait dit qu'il y aurait de guerre, et de pauvreté, de misère, racisme, jamais je n'aurais cru. Et pourtant.
C'était le 3 décembre 1982 avec Jacques Chancel. Aujourd'hui, en 2019, où en sommes-nous ? Est-ce que vous emploieriez les mêmes mots que ceux d'Elie Wiesel aujourd'hui, Delphine Horviller ?
Alors, c'est intéressant pour moi vraiment de réécouter cet archive parce que en 1982, j'étais une toute petite fille et moi, j'avais l'impression aussi de grandir dans un monde où je me disais, et je me souviens me l'a dit en bien des occasions, que j'avais la chance d'être née dans une génération qui ne connaîtrait pas tout ça. On allait être préservé parce que le monde avait compris. Moi, j'ai le sentiment, dans ma vie personnelle, d'une bascule, un moment que je peux vraiment dater très précisément, qui est 1990, c'est Carpentras. Voilà, la profanation du cimetière de Carpentras. J'ai le souvenir très clair d'une discussion avec mon père dans une voiture, 1990, ça devait être mai ou juin, et lui me disant c'est la chose la plus grave que ma génération, mon père est né dans les années 50, ait pu vivre. Et là je comprends, jeune fille que j'étais, qu'on bascule dans un temps où c'est possible, et qu'en réalité non, ma génération ne sera peut-être pas préservé de cela. Et puis après, saut dans le temps, on arrive dans les années 2000, avec là une montée en puissance et d'un passage à l'acte extrêmement violent. Et puis après, des dates clés que tout le monde connaît, l'assassinat d'Ilan Halimi, et puis Toulouse et l'hypercachère, et Sarah Halimi, et Mireille Knoll. Voilà des dates qui sont un peu des dates clés, mais qu'on prend un petit peu maintenant comme des marqueurs. Mais, et effectivement, cette connaissance, ce savoir que nous ne serons pas épargnés par ce mal mutant, ce qui mute et qui finalement renaît à chaque génération avec un langage différent, sous des formes différentes, et qui nous oblige à élever parfois nos enfants comme on ne pensait pas qu'on aurait à les élever. Moi, je me rends compte aujourd'hui que parfois, en tant que mère, j'enseigne aujourd'hui, même sans y penser, à mes enfants à une certaine méfiance ou une certaine vigilance. Et je n'aurais pas pensé transmettre ça.
Nous avons demandé à Eva Illouz, intellectuelle, théoricienne, ce qu'elle pense de votre approche du judaïsme libéral. Écoutez ce qu'elle dit, Delphine Horviller.
Le judaïsme libéral est en train de vivre une crise par rapport à Israël, parce que je dirais que jusqu'à ces 2-3 dernières années, il y avait une présupposition très forte qu'il existait une sorte d'unité mondiale du peuple juif. Or, Israël a pris des mesures qui remettent en question cette supposition. Par exemple, Israël refuse et continue de refuser de reconnaître les conversions qui sont opérées par les rabbins libéraux, d'une part, et d'autre part, Israël a aussi reconnu des leaders politiques qui sont considérés par une grande partie du judaïsme américain comme des antisémites. On peut commencer même par Trump lui-même, dont la base, on sait bien, est une des bases, disons, se trouve dans le Ku Klux Klan. Steve Bannon, qui a fait partie du régime de Trump au départ et qui est derrière Breitbart News, qui sont de façon très claire antisémites. Trump a été accueilli comme le Messie, hein, par certains, je cite certains hommes politiques israéliens. Donc je dirais qu'il y a aujourd'hui une nouvelle situation qui n'existait pas avant et qui est un fossé énorme qui s'est creusé entre le judaïsme américain et les droits de l'homme et la démocratie sont des valeurs sacrées et le judaïsme israélien. Qui va vers une direction de plus en plus orthodoxe, qui bafoue les droits de l'homme, et de façon encore plus surprenante, qui, pour des raisons de réel politique, s'accommode très bien, voire justifie et légitime des leaders antisémites comme Orban, comme le parti de la loi et de la justice en Pologne, comme Duterte dans les Philippines, et comme Trump lui-même.
Alors voilà, un panorama international des lieux de résurgence d'un discours antisémite au plus haut niveau, au niveau de la gouvernance mondiale. Est-ce que cela vous inquiète, Delphine Horviller?
Oui, alors je suis pas tout à fait d'accord avec avec ce qui vient d'être dit. D'abord, des détails, en premier temps, c'est que les conversions du judaïsme non orthodoxe sont reconnues par l'État d'Israël. Elles le sont pas par le rabbinat orthodoxe en Israël, mais elles le sont reconnues. Elles sont reconnues par l'État d'Israël, donc c'est pas tout à fait exact. Maintenant, cette crise qui existe entre un certain judaïsme diaspora et certains choix politiques israéliens est vraie partiellement. Il y a des tensions fortes, mais c'est des tensions, je reprendrai les termes d'Amos Oz tout à l'heure, qui existent dans tout couple et qui pour autant signifient pas nécessairement un divorce. Je crois que, par exemple, sur la question de Trump et du judaïsme américain, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un conflit aujourd'hui entre une politique, on va dire, nationaliste d'un gouvernement israélien avec ses intérêts économiques et politiques et des valeurs libérales et progressistes très fortes qui sont portées notamment par le judaïsme américain. Donc ça donne lieu à des tensions, à des frictions, mais ça ne change pas. Tout de même, me semble-t-il, aujourd'hui, un attachement fort, affectif de la diaspora juive avec son sens critique vis-à-vis d'Israël.
Ben, merci beaucoup, Delphine Horviller. Vous explorez pour la première fois et de façon très pédagogique la réflexion juive sur la question antisémite, c'est-à-dire que pour la première fois on a affaire à l'articulation d'un discours à partir de la pensée juive sur la question antisémite et on s'aperçoit grâce à votre érudition eh bien que cette question de l'antisémitisme était au cœur de la réflexion depuis l'aube de l'humanité. Merci infiniment pour vos pistes de réflexion et pour tout le plaisir que vous nous donnez à l'intérieur de ce livre qui vient de paraître et qui s'intitule Réflexion sur la question antisémite aux éditions Grasset. Et on va se quitter en écoutant Mandolin orange into the sun. Merci à Julien Dumont qui était à la régie technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Anne-Sophie Dazard, Élodie Royer et Antoine Joubert qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et merci à Claire Destacan qui l'a réalisée ce soir.